Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 5 mars. Une deuxième victime du coronavirus en Australie où l'épidémie a également un impact lourd sur l'économie. Le gouvernement prépare d'ailleurs un programme de relance destiné à empêcher une potentielle récession. Aux États-Unis, Joe Biden est le grand vainqueur du Super Tuesday. Le milliardaire Michael Bloomberg s'est lui retiré de la course à l'investiture démocrate et lui a apporté son soutien. Et en France, les élections municipales, c'est dans 10 jours et comme vous l'entendrez, ça chauffe entre les candidats à la mairie de Paris. Le coronavirus a fait une deuxième victime en Australie. Il s'agit d'une femme de 95 ans qui résidait dans une maison de retraite en Nouvelle-Galles du Sud, ce qui n'a pas manqué de créer la polémique puisque la dame en question a été contaminée par un aide-soignant, lui-même porteur du virus. Et depuis ce décès, plusieurs employés de la maison de retraite refusent de se rendre au travail de peur de tomber également malade. Un cas de figure qu'avait envisagé le ministre de la Santé des Nouvelle-Galles du Sud et qui avait donc écrit à son homologue au niveau fédéral pour lui demander des fonds supplémentaires afin de parer à ce genre de situation. Sauf que d'après le ministre des Nouvelles-Galles du Sud, son homologue au niveau fédéral l'avait envoyé balader, ce que dément le ministre de la Santé à Canberra, Greg Hunt. Bref, une dispute un peu de cour de récréation qui, d'après le député d'opposition Chris Bowen, n'est pas au niveau de la crise actuelle.
And it must be the number one priority of the government today to reassure Australians that there is seamless cooperation between the Commonwealth and the state governments. To reassure Australians that everything is being done. And when you have a very senior Liberal minister saying the system isn't working, then all the rhetoric about Scott Morrison about being ahead of the game and ahead of the curve and world beating is pretty hollow when you see those sorts of headlines.
Et puis le coronavirus, malgré son impact relativement faible sur la population en Australie, fait en revanche très mal à l'économie. Le gouvernement estime que le coronavirus va coûter un demi-point de croissance au cours de ce trimestre et qu'il pourrait également affecter le suivant. Le ministre des Finances, Josh Frydenberg, travaille lui sur un programme de relance destiné à atténuer les effets du coronavirus. Un programme qui pourrait notamment consister en l'annonce d'investissements massifs dans la construction d'infrastructures ou bien encore sous la forme de baisses d'impôts, en particulier pour les entreprises. En tout cas, l'essentiel, c'est que l'économie continue de tourner. C'est le message que Josh Frydenberg a délivré ce matin sur Sky News.
We're worth billions in terms of the impact that it will have. We are focusing on ensuring that businesses stay in business and Australians stay in jobs and that the cash flow will be maintained.
Et la crise du coronavirus est plus sérieuse encore en France où, comme en Australie, on observe des mouvements de panique dans les supermarchés, les gens achetant des quantités phénoménales de pâtes, de riz et d'autres denrées non périssables. Alors, c'est une bonne nouvelle pour des entreprises comme Barilla ou Lustucru. En revanche, le secteur du tourisme, qui représente tout de même 7% du PIB en France, est très durement touché. C'est pourquoi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a mis en place une cellule de continuité économique qui permet de faire un point quotidien sur tous les secteurs. Tout de suite, on écoute les explications de Pauline Glaise de RFI.
L'hôtellerie accuse une perte de 20% de son chiffre d'affaires selon le gouvernement. Les effets sont inégaux sur le territoire et des destinations particulièrement affectées, souligne Pierre Goguet, président de CCI France.
20 000 nuitées ont été annulées pendant ce week-end à Lourdes, pour des pèlerins qui ne viennent pas.
Lourdes est en effet prisée des Italiens. Avec le tourisme et l'hôtellerie, restaurateurs et traiteurs voient leur activité diminuer. L'épidémie porte aussi un coup au secteur de l'événementiel.
Il y a des annulations lourdes d'expos salons. Est-ce que ces salons se referont? Est-ce qu'ils sont définitivement annulés? Le salon de Lourdes l'auto de Genève qui est annulée. Donc quelque part, qu'est-ce qui se passe là derrière? Et ça peut causer des préjudices qui vont quelque part apparaître dans le temps. Et c'est clair qu'un constructeur qui ne peut pas présenter ses nouveaux modèles, ça peut engager les mois qui viennent.
Pour tenter d'accompagner les entreprises en difficulté, le gouvernement permet entre autres des reports de taxes et charges sociales et facilite les étalements de créances. Didier Chenet du groupement des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration réclame des mesures supplémentaires.
La réforme de l'assurance chômage fait que pour qu'un saisonnier puisse bénéficier de l'indemnité chômage, il faut qu'il ait fait 6 mois. Dans les conditions actuelles d'activité, ça va être impossible. Et la deuxième des choses, c'est de suspendre cette fameuse taxation des 10 euros par contrat, des contrats courts, des extras.
Des extras auxquels devrait davantage recourir le secteur au moment de la reprise d'activité.
Dans le reste de l'actualité, ça chauffe entre la Grèce et la Turquie. La semaine dernière, le président turc Erdogan a ouvert ses frontières. Résultat, des milliers de migrants les ont franchis ou ont tenté de les franchir, notamment en essayant de rejoindre la Grèce. Et la Grèce, eh bien, pour contrer cet afflux de migrants, n'y va pas de main morte, puisqu'elle utilise du gaz lacrymogène, des canons à eau. Des gardes-côtes ont même tiré à balles réelles sur un bateau chargé de migrants en pleine mer, une attitude plutôt discutable pour un régime supposément démocratique, mais qui n'est pas remise en cause par les autres membres de l'Union européenne qui lui apportent son soutien total. Soutien qui a été exprimé de vive voix par le ministre de l'Intérieur croate, Davor Božinović.
Let me clear, the borders of these countries are the borders of the European Union. And we will support all their efforts to protect them. And illegal crossings will not be tolerated by the European Union.
Allez, on se rend maintenant aux États-Unis où on assistait mardi soir à une véritable résurrection, celle du candidat à l'investiture démocrate Joe Biden qui, contre toute attente, est sorti largement vainqueur du Super Tuesday puisqu'il a remporté les suffrages dans 10 des 14 États qui votaient ce jour. Son principal concurrent, le sénateur Bernie Sanders, a en revanche gagné l'élection en Californie, l'État qui compte le plus grand nombre de délégués. Mais la situation se complique pour Bernie puisqu'en face, Joe Biden est soutenu par tous les candidats à cette primaire qui se sont retirés de la course. Le dernier en date, c'est le milliardaire Michael Bloomberg qui, après avoir dépensé 500 millions de dollars pour sa campagne, a annoncé hier son retrait, mais donc aussi son soutien à l'ancien vice-président de Barack Obama. Je vous propose d'écouter son discours.
Je me suis lancé dans la course à l'investiture pour battre Donald Trump et aujourd'hui, je quitte la course pour la même raison, parce que rester pourrait compromettre cet objectif. Pour battre Donald Trump, il faut s'unir derrière celui qui a le plus de chances d'y arriver. Et après le vote d'hier, il est clair que c'est mon ami, le grand Américain Joe Biden. Je connais Joe depuis très longtemps. Je connais sa morale, son honnêteté, son engagement sur des problèmes si essentiels pour notre pays. Les armes, l'assurance santé, le changement climatique et l'emploi. Et je suis heureux d'annoncer mon soutien pour Joe Biden et j'espère que vous m'aiderez à faire de lui le prochain président des États-Unis.
Allez, on traverse maintenant l'Atlantique pour retourner en Europe et plus précisément en Ukraine qui, depuis quelques heures, a un nouveau Premier ministre. La démission d'Oleksiy Onchaluk a été votée hier soir à l'unanimité par les membres de la Douma, le Parlement ukrainien. Il lui reproche de ne pas avoir su endiguer le ralentissement de l'économie et surtout l'effondrement du secteur industriel. Il a été remplacé par un homme de 44 ans qui s'appelle Denis Shmigal et qui, comme son prédécesseur, travaille sous l'autorité du président Volodymyr Zelensky, qui est lui-même une ancienne star de la télévision. Allez, on va parler maintenant de la France, puisque vous le savez, dans 10 jours, il y aura les élections municipales. Et évidemment, l'une des plus scrutées, c'est bien sûr l'élection concernant la capitale, Paris. D'après les tout derniers sondages, c'est la candidate de la droite, Rachida Dati, qui est en tête. Elle est suivie de près par la maire sortante, la socialiste Anne Hidalgo, qui elle-même devance de quelques petits points Agnès Buzyn. Il y a quelques heures a eu lieu un débat télévisé entre les 7 candidats à la mairie, un débat au cours duquel l'ancienne ministre de la Santé s'est montrée particulièrement offensive vis-à-vis d'Anne Hidalgo. Elle a notamment critiqué son bilan sur la question de la propreté. Je vous propose d'écouter un extrait du débat qui était diffusé hier soir sur la chaîne LCI.
Madame Hidalgo prévoit de faire dans les 6 prochaines années tout ce qu'elle n'a pas fait dans les 6 dernières années. C'est dommage que vous ne vous soyez pas posé la question avant, Madame Hidalgo, de la propreté des rues de Paris, mais je suis heureuse que vous le découvriez et que vous souhaitiez doubler le budget. En tous les cas, la propreté sera ma priorité et dès les 100 premiers jours, les Parisiens verront la différence.
Est-ce que vous avez trop tardé à réagir sur cette question de la propreté, Anne Hidalgo ?
D'abord, c'est un sujet presque vieux comme Paris, même s'il a une réalité et que je ne suis pas satisfaite de la situation. Et la propreté, c'est un enjeu environnemental, je suis entièrement d'accord, et c'est aussi un enjeu de civisme. Quand j'entends beaucoup de yaka faucons, hein, puisque c'est un peu des yaka faucons, en 100 jours, on va régler le problème de la propreté à Paris, je me dis qu'il faut un peu d'humilité. C'est un sujet auquel ont été confrontés Jacques Chirac, Jean Tiberi, Bertrand Delanoë, moi-même. Donc il faut un peu d'humilité et beaucoup de pragmatisme.
Alors, l'une des autres questions qui anime le débat entre les candidats à la mairie de Paris, c'est la question de savoir s'il faut armer la police municipale. Ce qui est sûr, c'est que, comme vous avez pu l'entendre à l'instant, entre les candidats à la mairie de Paris, ça tire déjà à balles réelles. Allez, on reste en France avec une autre grosse actualité qui s'est déroulée, elle, non pas à l'Hôtel de Ville, mais au Palais de Justice. En effet, la Cour de cassation a décidé de requalifier un chauffeur Uber qui, comme les milliers d'autres qui travaillent pour la plateforme de VTC, est embauché sous le statut d'auto-entrepreneur. Eh bien, la Cour de cassation a décidé qu'il allait être requalifié sous le statut de salarié. Une décision qui fait jurisprudence et qui pourrait être très lourde de conséquences pour Uber. À Paris, on retrouve Abla Junaidi de RFI pour tout nous expliquer.
Un chauffeur Uber est-il vraiment indépendant de la plateforme qui emploie ses services ? Non, répond aujourd'hui la Cour de cassation. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français le confirme. Il y a bien un lien de subordination du chauffeur avec la plateforme. Qu'il n'ait pas l'obligation de se connecter n'en fait pas pour autant un travailleur indépendant. Car quand il se connecte via son application numérique, disent les juges, le chauffeur a les pieds et les mains liés. Il dépend d'Uber, en l'occurrence, pour trouver le client et se voit imposer les tarifs de la course. Il est même sanctionné quand il ne répond pas aux conditions fixées. Le lien de subordination est donc avéré, un contrat de travail doit être établi. Le chauffeur va pouvoir réclamer à son employeur des rappels de salaire et autres indemnités de rupture de contrat devant les prud'hommes. La décision est saluée par les représentants des chauffeurs qui s'attendent désormais à des centaines de recours de ce type. Quant à Uber, il a réagi en assurant avoir tout fait ces dernières années pour améliorer le statut des chauffeurs, notamment leur protection sociale.
Allez, on va jeter maintenant un rapide coup d'œil à la météo en Australie. Et à vrai dire, ça va être vraiment très rapide, effectivement, puisqu'à travers à peu près tout le pays, il fait le même temps. Il pleut à verse, le ciel est gris. Et en plus, ça devrait continuer comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Alors, la fin de la semaine prochaine, excusez-moi. Alors, on va quand même vous donner les températures. Il fait 31 degrés à Perth, il fait 25 à Adélaïde. C'est la seule exception aujourd'hui, la seule ville où il y a un petit peu de soleil. 22 à Melbourne, 19 à Hobart, 23 degrés à Sydney. Et puis, on est toujours aussi mouillé dans le nord du pays, mais au moins, on se réchauffe un petit peu puisqu'il fait 30 degrés à Brisbane et même 33 degrés à Cairns et à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.